France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Louan Deniel et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. À l'approche des élections municipales en France, on vous propose cette semaine le deuxième volet d'une série qu'on avait déjà commencé début janvier sur les villes contre l'État. Après New York, Istanbul et Bologne, on évoque cette semaine Budapest, Hong Kong, le Cap en Afrique du Sud et aujourd'hui Buenos Aires, une capitale très autonome à la demande notamment de l'ancien président de la République argentine, Raúl Alfonsín, ici en 1996.
Il faudra respecter la constitution nationale pour qu'il y ait une véritable autonomie dans la ville de Buenos Aires. Pas avec cette loi mesquine qui ne donne pas aux habitants de Buenos Aires les droits qui leur reviennent.
À mon avis, qui n'est pas partagé par tous les juristes, c'est exactement la même chose que pour n'importe quelle autre province. Il ne faut faire aucune distinction entre la ville de Buenos Aires et les autres provinces argentines. D'autres estiment que la ville de Buenos Aires, en tant que capitale de la nation, ne peut être assimilée du jour au lendemain à une province comme une autre de la République argentine.
Je voudrais m'attarder un instant sur le concept d'autonomie de la ville de Buenos Aires. Déclarée dans la réforme constitutionnelle de 1994, la ville autonome de Buenos Aires, qui n'a en réalité encore que peu d'autonomie. Nous devons progresser dans le perfectionnement de cette autonomie. Par exemple, nous sommes la seule ville qui n'a pas son mot à dire ou qui ne peut pas donner son avis sur son port, un moteur de développement si important.
C'est une ville jamais assez autonome pour celui qui la dirige actuellement et que l'on vient d'entendre, Jorge Macri, mais qu'il est pourtant infiniment plus que tout autre en Argentine. Buenos Aires n'a pas de maire, mais un chef de gouvernement. Elle possède sa propre constitution, son parlement et sa police. C'est une réforme constitutionnelle dans les années 90 qui a donné à la ville de Buenos Aires et ses 3 millions d'habitants une autonomie équivalente à celle des provinces de la République fédérale. Ce statut spécial confère à la capitale un certain pouvoir politique. Gouvernée par la droite dès 2007, Buenos Aires a été durant près de 20 ans la vitrine de l'opposition au péronisme, Mauricio Macri notamment, qui a su ensuite mettre en avant son bilan à la tête de la capitale pour être élu par la suite président du pays. Alors quand l'Argentine est gouvernée par la droite, Buenos Aires n'est plus le bastion de l'opposition, c'est le cas en ce moment, mais si la droite de Jorge Macri est une alliée de Javier Milei à l'échelle nationale, en réalité la concurrence est rude localement entre les deux parties. Bonjour Noelia Noya Iglesias.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans le studio de Culture Monde. Vous êtes docteur en sociologie, spécialiste du gouvernement urbain à Buenos Aires. Et vous êtes ici en studio avec Mathias Landau. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes sociologue, chercheur au Centre National de Recherche Scientifique et Technique. C'est le CONICET, équivalent de notre CNRS ici en France. Et là, le CONICET est à Buenos Aires. Alors, pour changer un peu de nos épisodes précédents, Mathias Landau, épisodes qui étaient tous ancrés dans une actualité immédiate ou très récente, et ce sera le cas aujourd'hui encore car il y a beaucoup à dire des relations entre Javier Milei et la droite au pouvoir à Buenos Aires. Néanmoins, on peut se permettre de remonter dans l'histoire pour comprendre de quand date cette tension entre la capitale et l'État d'Argentine. Quel est le statut de Buenos Aires au moment où l'Argentine devient un État fédéral en 1880?
Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que... On peut commencer pour le moment l'indépendance de l'Argentine. Et à ce moment-là, 1810, l'Argentine était comme on le connaît maintenant. La révolution de mai, en 1810, était une révolution centrée à Buenos Aires. Et à partir de ce moment-là, entre 1810 et 1880, il y a eu une très grande crise de guerre entre les pouvoirs de Buenos Aires et les pouvoirs des provinces de l'intérieur. Et seulement l'État fédéral fédéral s'est construit en 1880 avec la fédéralisation de la ville de Buenos Aires. Jusqu'à ce moment-là, la ville de Buenos Aires, c'était une partie, la capitale de la province de Buenos Aires. Mais la tension entre la province de Buenos Aires avec la capitale et le reste du pays était très forte. La solution à ce moment-là, c'est de fédéraliser la ville de Buenos Aires. À partir de ce moment-là, la ville a commencé à être gouvernée par un intendente, on dit en espagnol, la maire, un préfet, qui était nommé directement par le président de la nation.
Oui, et donc plutôt une sorte de préfet que de maire.
Exactement, une sorte de préfet. Et la ville était seulement la possibilité d'avoir un conseil municipal, le Consejo Deliberante en espagnol, mais de lire des députés nationaux et des sénateurs, mais pas d'avoir la tête de pouvoir exécutif municipal élu par des voisins de la ville de Buenos Aires.
Ce n'est qu'en 1994 que les électeurs de Buenos Aires peuvent élire pour la première fois leurs représentants. Alors on peut dire un maire pour mieux comprendre, mais en l'occurrence à Buenos Aires, on parle d'un gouverneur, d'un chef de gouvernement. C'est en 94 qu'est donc mise en place une loi d'autonomie. Pourquoi à ce moment-là une loi d'autonomie? Qui la demande à cette époque?
Bien, c'est intéressant. On a donc le gouvernement de la ville de Buenos Aires tout au long du XXe siècle, c'était comme ça, c'était un gouvernement qui était directement nommé par le président de la nation. Et il y a eu une réforme constitutionnelle en 1994. C'est à ce moment-là, le gouvernement péroniste de Carlos Menem avait le besoin de réformer la constitution pour avoir un deuxième mandat. Et dans une négociation avec le leader radical, Raúl Alfonsín, la constitution, pour la première fois, a permis de construire une ville autonome à partir de ce moment-là.
Alors, pour bien comprendre, l'Argentine est alors sous la présidence du péroniste Carlos Menem, qui est un péronisme assez particulier. On va en parler, un péronisme très libéral. Lui, il est président depuis 89. Il veut se présenter pour un deuxième mandat présidentiel. La constitution ne lui permet pas. Donc, il va négocier, il va pactiser, nouer un pacte politique avec l'Union civique radicale, qui, malgré son nom, est un parti plutôt de droite centriste, si j'ai bien compris. Et Buenos Aires en est le bastion de ce parti-là.
Exactement. Mmh. Tout au long du XXe siècle, le radicalisme était très fort à la ville de Buenos Aires. Donc le radicalisme toujours avait mené l'idée de que la ville de Buenos Aires peut élire l'intendant. À ce moment-là, ce n'était pas le chef du gouvernement, c'était l'intendant. Mais seulement après la réforme constitutionnelle, le radicalisme a pu faire que l'espoir d'avoir un gouvernement autonome dans la ville avec l'élection de la tête du pouvoir exécutif soit permis par des péronismes.
Donc, contre le soutien de ce parti de droite centriste pour ce deuxième mandat, Carlos Menem accorde tout un ensemble de prérogatives à Buenos Aires en matière de justice, de police, d'administration et donc la possibilité d'élire le maire. C'est un pacte politique, Noelia Noya Iglesias, mais dans un contexte où la décentralisation est aussi un leitmotiv dans plusieurs pays d'Amérique latine. Au Mexique, la ville de Mexico acquiert un statut d'autonomie à peu près en même temps. À Buenos Aires, ce pacte entre le parti péroniste au pouvoir, donc celui de Carlos Menem, et la droite centriste locale, qu'est-ce que ça donne comme constitution pour la ville? Qui a l'ascendant au moment où il faut écrire? Est-ce que c'est plutôt cette gauche-là qui est au pouvoir en Argentine ou la droite de Buenos Aires?
Comme vous avez bien dit, tout d'abord, il faut replacer cette orientation, l'orientation de cette constitution, dans son contexte historique et international. Les années 1990 constituaient un moment où, à l'échelle mondiale, s'y diffusaient fortement des idées valorisant la participation en réponse à la montée des critiques à la démocratie représentative. Donc, il n'y a pas une dimension, on va dire, c'est une dimension aussi partagée, comme vous avez dit, pour des autres villes latino-américaines, notamment Mexique. Mais on peut voir qu'il y a une appropriation particulière à l'échelle locale. En fait, on sait que c'est une constitution, dans laquelle on peut voir, après je crois qu'on va parler en détail, mais une référence très forte sur la participation, sur la décentralisation, plus sur des politiques qui vont dans ces sons. Et comme vous avez dit, il y a un contexte particulier au moment de la discussion sur la constitution de la ville, parce que même si c'est les partis radicaux, le parti qui gagne les élections pour les chefs du gouvernement, mm-hmm.
c'est le chef du gouvernement de Buenos Aires. Encore une fois, c'est difficile à comprendre, mais il s'agit vraiment du maire.
Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour les élections des représentants qui vont écrire la Constitution, c'est les FREPASO, qui c'est une alliance des centre-gauche qui a construit une identité contre le ménémisme. C'est pour ça que c'est une partie des centre-gauche.
Le ménémisme, c'est le courant politique de Carlos Menem, donc ce courant très particulier, très libéral du péronisme.
Exactement. Mmh. Pardon, désolée.
Non, je vous en prie, on vous suit, je vous écoute.
Et totalement, écoute. Donc c'est ça. À la ville de Buenos Aires, il y a eu la construction d'un parti plutôt progressiste, avec qui souligne des idées d'anticorruption, des droits humains, des réformes politiques. Et ces partis vont se construire en réponse aux mesures néolibérales qui étaient développées pour les partis qui étaient à l'échelle nationale, ça veut dire les péronismes de Carlos Menem.
Voilà, parce qu'il y a à Buenos Aires une forte opposition de gauche à ce péronisme-là, le péronisme de Carlos Menem, au sein, vous le disiez, du FREPASO, donc ce sont des péronistes dissidents, pour le dire vite, qui pèsent assez fort localement. L'un des membres de cette coalition du FREPASO, par exemple, c'est Norberto Laporta, leader du Parti Socialiste Argentin. Il était interrogé ici en 1995 par une journaliste.
En ce qui concerne le statut de la ville de Buenos Aires, même si l'autonomie a été approuvée, le FREPASO affirme que cela est anticonstitutionnel.
Oui, bien sûr, car la sanction du Congrès national où le parti au pouvoir est majoritaire ignore ce qui a été établi par l'article 129 de la Constitution qui nous a donné une autonomie totale. Ils ont suivi la voie des coupes budgétaires, ils ont suivi la voie qui consiste à nous retirer ce que la Constitution a donné aux habitants de Buenos Aires. C'est grave, c'est vraiment grave, mais de toute façon ce n'est pas définitif. La situation politique du pays va changer à un moment donné, et à ce moment-là, nous engageons devant les habitants de la ville de Buenos Aires, nous viendrons leur dire que nous allons changer cette loi et que les habitants de Buenos Aires pourront jouir de l'autonomie que la Constitution leur a accordée.
Norberto Laporta, leader du Parti Socialiste Argentin et membre de cette coalition du FREPASO. Mathias Landau, comment expliquer que cette coalition du FREPASO, donc dissident péroniste, donc plutôt très à gauche, plus à gauche en tout cas Carlos Menem, président de l'Argentine à l'époque, comment expliquer qu'ils aient ce poids-là à ce moment-là pour peser sur l'écriture de la Constitution de Buenos Aires?
Bien. Pour moi, c'est très intéressant d'écouter Norberto Laporta parce que je crois que c'est un exemple très intéressant pour pouvoir penser la discussion de ce moment-là. Il faut préciser la discussion de la question de l'autonomie entre, je pense qu'il commence en 1993 avec le pacte qu'en Argentine, on connaît comme le pacte d'Olivos entre Menem et Alfonsín. Après la constitution nationale, la réforme avec l'article 129, mais l'article 129 de la constitution nationale seulement disait que la ville de Buenos Aires va avoir un gouvernement autonome, avec des nouvelles possibilités de gouvernement, de juridiction, etc. Mais c'était très très court l'article. Donc à partir de ce moment-là, à partir de 1994, a commencé une question de qu'est-ce que était l'autonomie. C'est pas défini dans la constitution nationale que était l'autonomie.
Et ça fait toujours débat encore
et ça,
aujourd'hui.
Oui, exactement. Donc après la réforme de la Constitution, il a eu une loi qui s'appelait la loi Cafiero, qui a mis une autonomie restreinte pour la ville. Donc c'est ça les discussions qu'on écoute à ce moment-là. Et après, en 1996, la ville a rédigé la Constitution, mais la Constitution de la ville de Buenos Aires, c'était pas issu de la Constitution de la nouvelle Constitution de la Nation, parce que il disait pas que la ville aura avoir une Constitution. même les noms chef de gouvernement, même les noms de la ville. La ville autonome de Buenos Aires s'était créée par l'Assemblée de la Constitution de la ville en 1996.
Donc il y a encore aujourd'hui une marge d'interprétation de ce texte et de ce que doit être l'autonomie de Buenos Aires. Et ce débat continue aujourd'hui, on entendra des échos tout à l'heure dans l'émission. Néanmoins, la Constitution de la ville, vous parlez tout à l'heure, Noelia Noya Iglesias, de l'attachement du Frepaso, les péronistes dissidents, à la démocratie participative, par exemple. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, qu'est-ce qui est rédigé dans la Constitution qui vient directement de cette forme de pression qu'exercent les péronistes dissidents ?
Bien, on peut dire que l'autonomie et ses constitutions ont entraîné des changements majeurs et on peut les voir ça à différents niveaux. On peut voir par exemple par rapport à les institutions des gouvernements de la ville. Vous parlez de la participation et on pourrait dire aussi la décentralisation. Les institutions des gouvernements qui sont créées avec ces constitutions, implique des transferts des responsabilités, notamment en matière des contrôles des polices, des transports et des autres domaines, mais aussi implique une autonomie au niveau des décentralisations dans les différents, on pourrait dire, districts ou circonscriptions qui font à la ville. Donc, on a là la création d'un espace pour des sélections des représentants des comunas, qui sont des cellules des quartiers, c'est similaire aux arrondissements. Et dans cette institution, il existe aussi des institutions spécifiques pour la participation de les voisins qui font partie de quartiers. Après, la ville, la constitution a donné la place aussi pour créer, il a ouvert la possibilité d'avancer en matière des droits civils aussi. Et on peut voir aussi l'influence de ces partis, parce que par exemple, l'autonomie a permis qu'après la ville de Buenos Aires a pu sanctionner en loi pour autoriser les unions entre couples des couples de même sexe avant que la loi nationale des mariages pour tous. Donc, il y a une dimension importante de l'autonomie qui donne l'espace pour les droits civils. Et finalement, les points plus importants en relation à la participation, c'est aussi l'élection de, bien sûr, du chef du gouvernement et aussi toutes les autres décisions, en fait, réglementations, comme par exemple le budget participatif des assemblées, des participations citoyennes pour discuter des politiques publiques. Entre autres.
Donc une ville qui, grâce à cette forme d'autonomie, avance un peu différemment du reste du pays ou à une vitesse peut-être différente. Enfin, en tout cas, il y a un décalage et on entend bien dans ce que vous nous expliquez cet attachement à une forme de démocratie participative, à certaines réformes sociétales par ailleurs. Dans une ville qui, depuis les premières élections de 96, de possibilité pour les habitants de Buenos Aires d'élire donc leur maire, mais qui est donc le chef du gouvernement de Buenos Aires, qui ont été remportées toutes ces élections par la droite, alors que ce soit l'UCR, ce parti de droite centriste qui avait pactisé avec Carlos Menem, ou que ce soit la droite de Mauricio Macri, le PRO, proposition républicaine. Comment expliquer d'abord, pour des explications peut-être sociologiques, Mathias Landau, que Buenos Aires est de droite depuis que les habitants peuvent voter?
Bien, c'est très, très intéressant. Pour ça, on doit commencer pour dire une chose sur la ville de Buenos Aires. La ville de Buenos Aires, on peut dire que Buenos Aires est seulement la ville juridique, la ville qui est la capitale fédérale, mais aussi Buenos Aires, c'est la métropole et c'est la ville de Buenos Aires, mais aussi la banlieue de Buenos Aires qui appartient à la province de Buenos Aires. Donc ça, une différence, parce que la banlieue, c'est plutôt péroniste, surtout de la banlieue pauvre, mais la ville capitale, c'est surtout anti-péroniste. Et ça, c'est une question historique, c'est pas une question de dernières années. Et c'est pour ça, je crois, que pendant toute l'histoire du XXe siècle, le péronisme était contre l'idée de l'autonomie, de l'élection du maire, du préfet de la ville de Buenos Aires, et l'anti-péronisme. Surtout les socialismes, les radicalismes étaient pour avoir une réforme pour pouvoir élire les chefs les maires, les chefs de gouvernement. Donc, quand on commence la période de l'autonomie, ces questions historiques expliquent un peu qu'à partir de ce moment-là, toutes les élections ont été gagnées par la droite. Traditionnellement, la ville de Buenos Aires est une ville anti-péroniste, et donc je crois que maintenant c'est la même chose. Maintenant la question c'est si le prochain chef de gouvernement va être du parti de Macri ou de Milei, mais c'est très difficile que le péronisme puisse gagner la ville de Buenos Aires.
Voilà, en Argentine, la vie politique est structurée autour de ce clivage péroniste-anti-péroniste, un clivage très important, structurant en Argentine. Quand le pays est dirigé donc au niveau national par des présidents péronistes, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais avant Javier Milei, il y a eu Alberto Fernandez.
Ouais.
Alors dans ces cas-là, quelle vitrine de l'opposition veut être Buenos Aires ? Comment dit-elle, quels sont les mots qu'elle emploie pour dire, ou les politiques tout simplement qu'elle-même, c'est même beaucoup plus concret, pour dire « nous ne sommes pas de ce bois-là, du péronisme qui gouverne le pays et qui, très souvent, hein, c'est ce que disent la droite en Argentine, que les péronistes sont indignes de gouverner le pays et que c'est à cause d'eux que le pays a connu toutes ces crises. Noelia Noya Iglesias.
Oui, effectivement, le macrisme les prend et a su construire une crédibilité à l'échelle nationale à partir de l'expérience des gouvernements à la ville de Buenos Aires. En fait, les pros ont construit une forte orientation vers des politiques publiques urbaines très lissibles, politiques des transformations de l'espace public, consolidation des politiques autour des districts économiques, rénovation urbaine. Et ce type de politique publique a été utile pour construire une esthétique de l'action publique. Avec ce type de stratégie, ils sont montrés qu'ils pouvaient aborder des priorités visibles, des chantiers. Il avait des preuves de ces changements. Et esthétique qu'ils sont construits, ça a articulé avec l'idée d'une ville attractive, une ville où on peut investir, une ville où on peut en prendre, on peut faire des projets, une ville pour faire des affaires. Et c'est intéressant parce que et aussi ils ont profité cet espace, la construction du pouvoir autour de la ville de Buenos Aires, pour montrer que la ville de Buenos Aires, c'est une ville globale, attractive, une ville orientée au tourisme, une ville avec des différents types de festivals et différents types d'activités attractives.
Buenos Aires s'est vu décerner plusieurs labels ou prix, je ne sais pas bien, mais ville gastronomique, ville culturelle, etc. Et lors de sa campagne pour les présidentielles en 2015, Mauricio Macri a mis en avant toute cette gestion de la capitale qui refusait le modèle de gestion péroniste en disant que eux ils mettent toujours l'accent sur la ville verte, la ville loisir, la ville sociale. Nous, on va aussi mettre en avant le travail, donc cette opposition structurante en Argentine qui se retrouve à Buenos Aires. Mauricio Macri, qui a succédé donc à la présidence de la République argentine, à la péroniste Cristina Kirchner. Et celle-ci est toujours présente dans le débat politique, y compris quand il s'agit de parler du statut de Buenos Aires.
Je pense que nous devons également repenser quelque peu la question de cette ville bénie qu'est Buenos Aires, qui est la capitale de tous les Argentins et où soudainement une police politique s'est emparée de la sécurité dans les rues. Cela doit être repensé, d'abord parce que la Constitution ne parle pas d'autonomie, mais d'un statut à adopter, et ensuite parce que je pense que cette ville est la ville de tous les Argentins. Pour cette capitale, il y a eu des guerres civiles elle tout au long du 19e siècle. Je pense donc que nous devrions également repenser le fonctionnement juridictionnel, la manière dont la juridiction doit être exercée et le rôle du gouvernement fédéral dans une ville comme celle-ci.
Christina Kirchner, Mathias Landau, vous nous disiez tout à l'heure que souvent les péronistes veulent remettre en cause le statut d'autonomie de Buenos Aires. Est-ce que c'est pour des arguments juridiques, politiques qu'on peut exposer, ou c'est vraiment parce que Buenos Aires est de droite et que eux ne supportent pas les péronistes que cette ville soit de droite et leur résiste?
Oui, je crois qu'il y a une question que c'est très intéressant, qui est la manière de penser comment gouverner la ville dès le péronisme et l'antipéronisme, c'est complètement différente. Le péronisme pense, pas maintenant, mais historiquement, que la ville, c'est comme dit ici Christina Kirchner, c'est une partie importante de la nation, c'est comme la nation, et donc la ville, c'est de tous les Argentins. Et ça, c'est pourquoi, par exemple, en 1949, après la réforme de la Constitution dans le premier gouvernement de Perón, la ville a été... La Constitution a supprimé le régime municipal à la ville de Buenos Aires. Donc, c'est ça la manière de penser. La ville, c'est la ville de tous les Argentins, et elle doit être gouvernée par des autorités nationaux. Pour l'antipéronisme, c'est le contraire. Et ces paroles de Christina Kirchner ont été dans un contexte très précis, que c'est une discussion dans le contexte du coronavirus. C'est quand le président Alberto Fernández a décidé de fermer les écoles pour des questions sanitaires. Donc, le chef du gouvernement en ce moment, Rodríguez Larreta, a mis une action juridique pour ouvrir. Et il a dit, bon, nous sommes une ville autonome, donc on peut décider si on ouvre ou pas les écoles. Et ce qu'il dit à ce moment-là, le péronisme, c'est pas une question de l'autonomie de l'éducation, mais c'est une question sanitaire, et les questions sanitaires, c'est une question fédérale.
Une prérogative. Ah, d'accord.
Oui, fédérale. Et donc, on peut faire une chose dans la ville juridictionnelle, la ville autonome de Buenos Aires, et une autre chose dans les municipes de la banlieue qui sont partis de la province de Buenos Aires. Donc, ça, c'est un très grand problème en Argentine. Comment on peut penser un gouvernement autonome de la ville, mais aussi un gouvernement métropolitain avec les restes de municipalités de banlieue.
Les différends entre la ville de Buenos Aires et l'État argentin sont multiples et d'ordre divers. Alors vous parliez des mesures sanitaires juste après le Covid, mais il y a aussi les questions qui concernent la police locale, la fiscalité, puisque la municipalité de Buenos Aires accuse souvent l'État de ne pas assez redistribuer les recettes des impôts au niveau municipal. Noelia Noya Iglesias, les inégalités sont d'ailleurs plutôt dans les banlieues de Buenos Aires, le Grand Buenos Aires. Est-ce que ce Grand Buenos Aires est aussi de la responsabilité du gouverneur de Buenos Aires, ou c'est vraiment deux entités différentes?
Ils sont vraiment deux entités différentes. En fait, pour la province de Buenos Aires, on a un gouverneur, en fait. C'est une autre figure, qui actuellement c'est Axel Kicillof. Donc, ils sont effectivement du gouvernement totalement différent. Donc, justement, cette tension, c'est la tension entre la croissance de la population urbaine qui a produit une manche urbaine continue, mais en même temps une fragmentation politico-administrative qui divise cet espace par des frontières juridictionnelles. Donc, les défis, c'est comment concilier ces mosaïques institutionnelles qu'il y en a pour gouverner l'espace métropolitain.
Espace métropolitain qui, par ailleurs, c'est un des sujets qui anime beaucoup les responsables politiques en Argentine, c'est la question de l'insécurité. Au niveau national, le président Javier Milei martèle son dégoût du laxisme, dit-il, de la gauche sur les questions de sécurité. Il faut dire que juste avant sa campagne présidentielle, plusieurs meurtres ont eu lieu en pleine ville et parfois en plein jour. Une petite fille de 11 ans tuée devant son école par deux motards qui voulaient lui arracher son cartable, un chirurgien qui a pris une balle dans la tête parce que quelqu'un voulait lui voler sa voiture, et d'autres encore. Le gouverneur de Buenos Aires, Jorge Macri, fait là bien la différence entre le centre-ville, la ville de Buenos Aires, et la périphérie.
Je suis d'accord avec le président de la République sur un point. Je pense que la province de Buenos Aires manque d'une politique de sécurité et nous en souffrons dans la ville de Buenos Aires car 7 délinquants sur 10 qui commettent des délits dans la ville viennent de la province de Buenos Aires. Je pense que la situation dans la banlieue est très compliquée. Je n'ai pas besoin de le décrire. Tous les médias le montrent quotidiennement. Les habitants le savent, les maires le disent. Sur les 14 policiers tombés dans l'exercice de leurs fonctions au sein de la police de la ville de Buenos Aires, 13 ont été assassinés en se rendant à leur domicile ou en rentrant chez eux. En d'autres termes, ils travaillent toute la journée ici, luttant contre la criminalité, mais ils sont tués en se rendant ou en revenant de leur domicile, la plupart d'entre eux à La Matanza. Je pense donc qu'il y a un problème. Aujourd'hui, la solution consiste à demander à un gouverneur de démissionner. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il s'agit plutôt de voir comment nous pouvons mieux travailler ensemble et d'autre part, de continuer à exiger du gouverneur qu'il soit à la hauteur des conséquences de la situation et qu'il nous présente un plan de sécurité pour la province de Buenos Aires. Je n'ai jamais entendu le gouverneur parler d'un plan de sécurité et je pense que la province en a besoin.
Jorge Macri, qui parle là de La Matanza, c'est un partido, un arrondissement de la province de Buenos Aires. Jorge Macri est donc le chef du gouvernement de la ville de Buenos Aires. Il en appelle là à un plan de sécurité qui intègre la banlieue ou le Grand Buenos Aires. Parce que lui, pour tous ceux qui sont succédés à ce poste à la tête de la ville de Buenos Aires, Matthias Landau, il ne faut s'occuper que des habitants de la ville, pas ceux des banlieues, et ça regarde vraiment le gouvernement argentin.
Exactement, et ça c'est un très grand problème historique, et maintenant je crois qu'après l'autonomie c'est plus grand. Et parce que quand la ville de Buenos Aires s'était fédéralisée, ils pensaient que les limites juridictionnelles étaient les mêmes des limites démographiques et des limites urbaines. Mais après, et la ville a commencé à augmenter de la population, donc la manche urbaine a commencé à s'élargir. Et à partir des années 60, la population de la ville et même la manche urbaine traversait les limites juridictionnelles. Donc, et à partir de ce moment-là, toute la population a augmenté très fortement dans la banlieue, mais pas dans la ville de Buenos Aires. Dans la ville de Buenos Aires, on a la même population maintenant.
3 millions d'habitants.
3 millions d'habitants que dans les années 40. Mmh. Donc c'est ça un très grand problème. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'après l'autonomie, c'est un problème qui est beaucoup plus fort. Pourquoi ? Parce que l'autonomie renfermait la ville dans les limites juridictionnelles. Ce qui dit Jorge Macri, c'est « Je suis seulement le chef du gouvernement de la ville, donc tous les problèmes de la délinquance dans la province, c'est pour des gouverneurs Axel Kicillof. » Mais c'est la même ville en termes urbains. La ville les personnes qui habitent dans la banlieue travaillent ou études dans la ville, et même au contraire, il y a beaucoup de personnes qui habitent à la ville mais qui vont travailler ou étudier ou faire différentes choses à la banlieue. Donc, et comme le statut de la ville, c'est la ville autonome et après c'est la province de Buenos Aires, on n'a aucune coordination institutionnelle, il n'y a pas de manière de penser comment on peut soutenir un gouvernement commun.
Pas de communication, même entre l'équipe d'Axel Kicillof qui gouverne la banlieue, le Grand Buenos Aires, et le chef du gouvernement de la ville de Buenos Aires, qui est donc Macri, issu d'un parti de droite. D'ailleurs, de quelle droite ? Quand on parle aujourd'hui de la droite en Argentine, on a en ce moment plutôt en tête celle du président Javier Milei, donc son parti de Javier Milei, qui n'est pas la droite traditionnelle présente à Buenos Aires. Est-ce que ces droites qui se sont alliées au niveau national se font concurrence à Buenos Aires ? Qui veut répondre à cette question ?
Est-ce que vous...
Oui, Matthias Landa. Oui, pardon, allez-y, je vous en prie.
Bon, c'est difficile à dire, en fait, dans les... En fait, les pros, les partis de Jorge Macri a gagné les élections dans l'année 2023. Et c'est pour ça que c'est lui le chef du gouvernement de la ville de Buenos Aires. Mais dans les dernières élections, qui sont les élections qu'on a eues il y a quelques mois, les élections pour les députés de la ville de Buenos Aires, On a eu les triomphes en première place du parti de la Liberté Avanza, le parti de Javier Milei. Donc, on a une situation particulière parce que très rapidement, ce parti, la Liberté Avanza, qui avait obtenu la troisième place dans les élections des présidents du cent avant, aujourd'hui occupe la première place dans la ville de Buenos Aires. Et par contre, les pros, qui a été...
Le pro, c'est le parti de Macri.
Les Macri. C'est parti qui, pour 20 ans, a gouverné la ville de Buenos Aires. Aujourd'hui, dans les élections, se trouve au troisième place. Derrière le péronisme qui a obtenu la deuxième place à la ville de Buenos Aires. Donc, ce qu'il y a, c'est une polarisation entre... une extrême droite, en fait, l'extrême droite de la Liberté d'Avanza et la représentation du péronisme.
Il fallait voir Javier Milei se félicitant de la victoire du candidat de la Liberté d'Avanza en mai dernier, quand un de ses candidats est arrivé en tête d'une élection locale pour renouveler une partie du Parlement de la ville de Buenos Aires. Javier Milei, trop content de saluer cette victoire de Manuel Adorni, son porte-parole.
Hola a todos.
Bonjour à tous.
La verdad que
en vérité,
es importante.
Il est important
tener conciencia
d'avoir conscience
que hoy es un día
qu'aujourd'hui est un jour charnière pour les idées de la liberté.
Hoy se pintó
aujourd'hui, le bastion jaune s'est teinté de violet.
Y a partir de ahora,
et désormais, tout le pays doit se teinter de violet.
Est-ce que Javier Milei, le président argentin, s'est beaucoup investi dans cette élection, ces élections locales qui ont vu se renouveler à la fois le Parlement de la ville de Buenos Aires, mais aussi un peu plus récemment, il y a eu d'autres élections dans le grand Buenos Aires où le péronisme, cette fois-ci, a dépassé Libertad Avanza et de beaucoup. Mais dans tous les cas, est-ce que Javier Milei s'investit dans ces élections locales?
Oui, je crois que... on doit dire que Javier Milei, c'est un politique qui c'est un outsider, mais qui est très pragmatique. Donc, quand il est convenant de faire une alliance avec la droite de Macri, il fait l'alliance à la province de Buenos Aires. Quand il doit le besoin de gagner la ville, il va tout seul. Mais je crois qu'il sait bien que la ville de Buenos Aires, c'est un endroit très important symboliquement, économiquement, politiquement. Donc, je crois que pour ce qui vient pour l'an prochain, que c'est l'élection la plus importante, c'est l'élection du chef de gouvernement, pas une élection de mi-terme, une élection locale. Et je crois qu'il veut gagner la ville et donc il va tensionner avec les partis du Macri qui, après 20 ans de gouverner la ville, est en crise. Donc, je crois que ce qui vient, c'est une bataille importante dans la ville entre les miléismes et les macrismes.
Avec d'ailleurs des transfuges, la frontière a l'air assez poreuse, puisqu'il y a plusieurs élus du PRO, donc du parti de Jorge Macri, qui est chef du gouvernement de Buenos Aires, tenté de rejoindre la Libertad d'Avanza. Il y en a eu plusieurs, ministre de la Sécurité Patricia Bullrich, Guillermo Franco, actuel ministre de l'Intérieur. Enfin, il y en a comme ça qui quittent la droite macriste pour celle de Javier Milei. Sur quels arguments d'ailleurs, Noelia Noia Iglesias, parce que Javier Milei, alors, a ce discours libéral anti-étatique, mais le PRO de Macri n'est pas non plus des plus dispendieux et aussi un parti assez austéritaire, donc enfin qui mise sur l'austérité. Donc, sur quels arguments est-ce qu'ils se disputent?
C'est difficile à dire en fait, mais c'est vrai que ce qu'on peut voir pendant ces derniers mois, ou à mon avis, c'est que le parti pro de plus en plus a tourné vers la droite. Parce que ces pressions qui a établi la Libertad Avanza pour les pros, impulsé en tournant à droite, plus à droite aussi du pro. C'est pour ça qu'il y a...
Le pro, je rappelle, c'est le parti de Mauricio Macri. C'est un tout petit peu compliqué à comprendre, mais je vous en prie.
Et c'est pour ça aussi qu'on peut voir dans les gouvernements de Jorge Macri un changement des politiques par rapport à les anciennes politiques, notamment les politiques qui a implémenté Rodríguez Larreta, qui a été notre gouvernement de la ville de Buenos Aires, et aussi de Mauricio Macri. On peut voir qu'il y a un changement très fort, très marqué du type des politiques qu'ils sont en train de mettre en place à la ville de Buenos Aires, justement pour être proche de cet électorat qui, maintenant, à la ville de Buenos Aires, exige des réponses plus à droite qu'avant.
Donc une ville où le curseur de la droite s'est encore un petit peu déplacé toujours plus vers la droite, ce qui n'empêche pas Buenos Aires d'être par ailleurs le cœur battant de la contestation sociale et des syndicats. On en parle avec Pierre Rouxel juste après ce groupe argentin Trueno.
Estoy cansado de las luces apuntándome. La noche me pregunta pero no sé. Todos quieren todo, nadie sabe quién. Buenos Aires en llamas bajo slow flame. Oh, oh, fuck fame. Pa' apagar el fuego llego yo en rain. Vámonos del mundo, ma, you know I'm saying. Buenos Aires en llamas bajo slow flame. Se prende en fuego la ciudad. Yo siempre estoy de acá pa' allá. Ahora el pueblo tiene miedo por el fuego de tu mirada. Mami, se me está quemando el tiempo sin mi otra mitad. Ahora el pueblo tiene miedo por el fuego de tu mirada. Ahora el cielo solo me escucha a mí. Les enseño lo que nunca aprendí. 12 AM por el barrio. Nada escucho, nada vi. Mami, la casa se puso rosada por mí. Con las ilusiones a futuro pisadas. Un río de sangre y de sueño la tri.
Si quedan cenizas la vuelvo a prender. Si ya no queda tiempo te lleva la ayer. Si el mundo se cae lo vemos caer. Por tu beso frío que me hacen arder. Ya no quiero más caos, no quiero más guerra. Por vos me dejaba la sangre en la tierra. Cruzaba los mares, moría en la tiniebla. Mataba la luna trepando la sierra. Y ahora estoy viendo cómo todo se quema. Se prende el infierno que tengo en las venas. En el mar de tus ojos me cantan sirenas. Me meto hasta el fondo para ahogarme en tu pena. Quiero que se quemen todos los problemas. Salir del infierno, romper la cadena. Borrarnos del mundo, apagar el sistema. 2021, la última cena.
Le rappeur argentin Trueno et sa chanson qui date de 2022 où il dit que Buenos Aires est en flammes. Lui est originaire de la Boca, un quartier populaire du sud de la ville de Buenos Aires. Et il est vrai que cette ville, même si c'est un bastion de la droite et donc de l'opposition au péronisme quand le péronisme est au pouvoir en Argentine, eh bien la ville reste un haut lieu de la contestation sociale et des syndicats.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Ces dernières semaines en Argentine, des secteurs comme l'industrie, les transports, la fonction publique, mais aussi les ports, les aéroports, les banques, se sont mobilisés contre la réforme du travail portée par Javier Milei. Le 19 février, tous ces secteurs se sont même passé le mot pour une grève générale. Le texte a finalement été adopté la semaine dernière, vendredi soir. Bonjour Pierre Rouxel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université Rennes 2. Alors, on va parler plus précisément, on va se remettre à l'échelle de la ville de Buenos Aires dans cette discussion, mais peut-être d'abord nous expliquer quels droits du travail et droits syndicaux sont remis en cause par Javier Milei dans ce texte qui a donc été adopté le 19 février dernier, au nom de l'efficacité économique. 29 février, le 27. Bon, on va y arriver. Je vous écoute, pardon.
Oui, en fait, il y a eu deux étapes. Il y a eu les députés puis le Sénat. Effectivement, donc la loi, elle a été adoptée. Alors, par rapport au projet initial, il y a eu quelques dispositions qui ont été enlevées, mais ça reste malgré tout une loi qui participe d'un affaiblissement assez généralisé en fait des droits salariaux en Argentine, qui reste relativement protecteur si on regarde à l'échelle plus large de la région latino-américaine. Donc en matière de conditions de travail et d'emploi pour les salariés, hein, les indemnités de licenciement qui diminuent, le temps de travail qui est beaucoup largement flexibilisé, en matière d'expression et de possibilités de mobilisation, par exemple une disposition qui a beaucoup été commentée, c'est la restriction du droit de grève avec des secteurs définis comme essentiels dans lesquels il n'est plus possible, ou en tout cas sous certaines conditions, de faire grève, et aussi tout un ensemble de dispositions qui attaquent un petit peu le cœur du droit syndical en Argentine. Alors là, c'est des dispositions éventuellement un petit peu plus techniques, mais qui sont en fait assez fondamentales pour en tout cas comprendre comment s'organise le syndicalisme en Argentine. Et peut-être une disposition qui peut parler à un public francophone, c'est notamment ce qu'on a connu en France avec les ordonnances Macron il y a quelques années, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. Alors une formule un peu technique pour dire que au niveau d'une entreprise, il peut être passé un accord qui est moins favorable que le droit du travail ou que les conventions collectives pour des salariés, un truc qui n'était pas possible en Argentine jusqu'à présent.
Et la possibilité de fonder des syndicats entreprise par entreprise et lieu de travail par lieu de travail plutôt que toujours systématiquement des accords de branche, si j'ai bien compris, c'est un texte qui étend aussi les services considérés comme essentiels, qui donc en cas de grève seront tenus de continuer à fonctionner et qui inclut ces services essentiels, par exemple les industries qui travaillent pour l'export. Donc voilà, on ne peut pas entrer dans tous les détails. En tout cas, ce texte a généré un grand mouvement social général et également réparti sur tout le territoire argentin, ou vraiment plutôt concentré à Buenos Aires.
Alors, il y a évidemment un effet de loupe médiatique qui concentre les attentions à Buenos Aires. Il y a des mobilisations qui se passent dans d'autres grandes villes qui, aujourd'hui comme hier, on compte dans l'histoire sociale et politique du pays. Je pense à la province de Santa Fe, à celle de Córdoba, Rosario, etc. Pour autant, il est assez clair que Buenos Aires, pour les raisons que vous avez invoquées plus tôt dans l'émission, hein, c'est aussi le cœur politique du pays, c'est aussi le cœur démographique, le cœur économique du pays, et donc il y a aussi des traditions de lutte et d'organisation qui sont plus fortes et plus développées, avec aussi une tradition d'aller manifester à proximité immédiate des lieux de pouvoir, hein. Une grande partie des manifestations, qu'elles soient syndicales ou non, se déploient soit devant le Congrès, soit au niveau de la place de Mai, donc le siège du pouvoir exécutif et législatif à Buenos Aires, l'hypercentre. Et l'ampleur et l'intensité de ces mobilisations populaires, et notamment syndicales, hein, elle se comprend en resituant un peu Buenos Aires dans la ville, au sens administratif du terme, dans son périmètre géographique et l'unité métropolitaine plus large qu'elle constitue, enfin le Grand Buenos Aires, si on va au-delà des frontières de l'administratif de la ville, dans l'immense conurbano, c'est-à-dire la banlieue qui entoure la ville de Buenos Aires, il y a des traditions d'organisation et de lutte sociale qui sont développées, et ça depuis très longtemps, hein. Ça renvoie à l'histoire sociale, économique, politique du pays.
C'est aussi là que se trouvent les sièges des grands syndicats, mais surtout des commissions internes. Ce sont des unités syndicales de lutte dans les entreprises du Grand Buenos Aires. Ça fait partie de vos terrains de thèse, Pierre Rouxel. De quoi s'agit-il? De quelles traditions sont-ils aujourd'hui les garants?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, le syndicalisme en Argentine, à l'échelle latino-américaine, c'est assez singulier, parce qu'il conserve encore aujourd'hui un pouvoir institutionnel ancré dans le droit qui est relativement fort, et un ancrage dans le monde du travail qui est relativement conséquent, même si il y a eu une très large informalisation du travail depuis les années 90, c'est-à-dire de progression du travail hors cadre légal. Qui, malgré tout, les taux de syndicalisation, par exemple, en Argentine, restent relativement élevés, c'est 35-40%. Et là-dedans, il y a différentes choses qui se mêlent, c'est-à-dire, d'une part, des grandes fédérations qui concentrent l'essentiel des ressources et du pouvoir, et qui peuvent avoir parfois, comme aujourd'hui pour la réforme du travail, hein, une attitude assez conciliante vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis des réformes qu'il porte, en disant qu'en évitant les formes de confrontation les plus ouvertes, on va obtenir tout un ensemble de concessions. Hein. Vous avez cité tout un ensemble de secteurs mobilisés ces dernières semaines, mais il y a aussi tout un ensemble de fédérations et de centrales syndicales qui sont assez rétives à descendre dans la rue, à appeler à la grève, etc. Mais dans ce monde syndical-là argentin, il y a aussi toute une tradition de lutte plutôt ancrée dans les entreprises, sur les lieux de travail, avec effectivement ces représentants, ce maillage qu'on appelle, qu'on désigne souvent en Argentine comme celui des commissions internes ou des groupes de délégués, qui sont en fait des représentants syndicaux qui appartiennent à ces grandes fédérations, à ces grands syndicats de branche, métallurgie, banque, etc., mais qui disposent, si vous voulez, d'une forme d'autonomie relative vis-à-vis de ces directions, de ces grandes fédérations, parce que ce sont des commissions, des délégués qui sont directement élus par les salariés, qui ont une existence qui est garantie par les conventions collectives, par la loi. Et donc, dans ce cadre-là, ces commissions internes sur ces lieux de travail, elles ont pu incarner historiquement et encore aujourd'hui une forme de pôle plus combatif dans le syndicalisme, avec des traditions beaucoup plus de contestation, de confrontation assez marquées, et notamment dans le Grand Buenos Aires, qui concentre un grand nombre d'entreprises, un grand nombre d'industries dans le pays.
Et notamment au nord du Grand Buenos Aires, pourquoi ces commissions internes sont plutôt concentrées dans le nord de cette grande conurbation ?
Alors, en réalité, il y en a un petit peu partout. C'est un ancrage qui est assez diffus, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les recompositions du Grand Buenos Aires, elles ont été un peu les suivantes, c'est-à-dire que le sud et l'ouest, c'est historiquement le cœur du développement industriel du pays au XXe siècle, sous le péronisme, mais c'est aussi les territoires qui ont le plus subi les politiques néolibérales dans les années 80-90, la désindustrialisation, la montée du chômage, du travail informel, donc des zones en grande difficulté sociale, qui ont été le cœur des mobilisations de travailleurs sans emploi. On s'en rappelle peut-être, à la fin des années 90, les mobilisations piqueteras, ces travailleurs sans emploi qui coupaient les grands axes routiers du pays. C'était beaucoup dans ces territoires-là. Et à l'inverse, le Nord, alors c'est un territoire plus composite, où il y a plus de communes plus aisées, qui votent plus Javier Milei par ailleurs aussi, encore aujourd'hui, et qui aussi restaient plus développées économiquement autour de l'autoroute panaméricaine. Il y a une grande concentration industrielle, c'est aussi une zone qui est beaucoup plus facile en termes logistiques, qui est beaucoup plus tournée vers l'export, donc avec une forme de concentration économique qui perdure. Et ce qui fait que dans les années 2000-2010, au moment où la croissance économique sous le kirchnerisme est un petit peu repartie à la hausse, où l'emploi qui avait été très largement diminué dans la décennie précédente est reparti aussi, c'est dans ce territoire-là, plus particulièrement dans le nord de Buenos Aires, que se sont concentrées, les mobilisations syndicales les plus importantes.
Une dernière question, pardon Pierre-Auxel, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que ces commissions internes, est-ce que ce sont elles en ce moment qui entraînent le mouvement social ? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont plus combatives que jamais sous Javier Milei, les très nombreuses fermetures d'entreprises, d'usines, les suppressions de postes, ou au contraire, est-ce qu'elles sont plutôt assommées par tous ces coups portés aux organisations syndicales et au travail ?
Ce qui est sûr, c'est que le contexte est très compliqué pour les éléments que vous avez rappelés. Le blocage très fort des salaires, lié consécutif notamment à la dévaluation, les suppressions d'emplois, la répression aussi qui s'est durcie. La loi du travail, la réforme du travail porte tout un ensemble de mesures qui disons durcit les conditions de la contestation sociale, voire la criminalise. Donc le contexte est très compliqué, mais il n'empêche pas moins qu'effectivement, il y a tout un ensemble de secteurs syndicaux qui restent assez mobilisés, qui conservent une assise à la fois sociale et institutionnelle qui est relativement forte. Et dans ce panorama, il y a ces commissions internes, effectivement, qui souvent, bien souvent, poussent à ce que la posture de l'ensemble du mouvement syndical soit plus combative que ce qu'elle n'est parfois.
Merci beaucoup Pierre-Auxel, maître de conférence en sciences politiques à l'université Rennes 2. Merci d'avoir été avec nous pour parler de ce grand mouvement social, cette grève générale aussi du mois de février en Argentine. Pierre-Auxel nous parlait d'une sorte d'effet de loupe médiatique. On a beaucoup parlé de Buenos Aires, en réalité la contestation allait bien au-delà. Cet effet de loupe, Mathias Landau, il vaut aussi pour les politiques en général, et Javier Milei est lui aussi issu de la politique, de vraiment la politique locale de Buenos Aires, comme avant lui d'autres présidents argentins. Pourquoi est-ce que Buenos Aires est un passage obligé pour les...
Oui, c'est très intéressant. Et presque tous les présidents de l'histoire argentine ont un rapport avec la ville de Buenos Aires. Pas tous ont été chefs de gouvernement comme Macri, mais sinon députés nationaux, ministres, etc. Pourquoi? Parce que la ville, c'est, en Argentine, la ville de Buenos Aires, c'est la seule grande ville du pays. La différence avec les deuxièmes, les troisièmes villes, Córdoba, Rosario, c'est énorme. C'est pas comme d'autres pays. Donc, ce qui se passe à Buenos Aires, c'est une question très importante. La question médiatique, c'est très important. Et en Argentine, on peut aller à n'importe quelle province et dans la télé, ce sont des chaînes de la ville de Buenos Aires et tout se passe dans la ville de Buenos Aires. Donc, c'est un centre politique, économique, social, démographique. Et la troisième partie de la population habite à Buenos Aires.
Le tiers de la population.
Le tiers,
c'est ça.
Oui.
En tout cas, on sent bien que c'est un objectif pour Javier Milei aujourd'hui que de voir son parti, La Libertad Avanza, gouverner la capitale. L'année prochaine, les élections auront lieu l'année prochaine. Elles sont très importantes pour le pays. Oui. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans Culture Monde. Mathias Landau, chercheur au Centre National de Recherche Scientifique et Technique de Buenos Aires. Merci Noelia Noya Iglesias, spécialiste du gouvernement urbain à Buenos Aires. Vous êtes docteur en sociologie. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Monde.
Merci.
C'est l'heure de la revue de presse internationale. Mathilde Romagnan, vous êtes allée voir ce que dit la presse internationale sur les élections législatives au Népal, où l'on attend un renouvellement de la classe politique.
Demain, 19 millions d'électeurs doivent se rendre aux urnes pour élire les 275 députés de la Chambre des représentants, la chambre basse du Parlement népalais. Un scrutin très attendu après les manifestations de la Gen Z en septembre 2025 qui ont fait 77 morts et qui ont conduit à la démission du Premier ministre d'alors, KP Sharma Oli, âgé de 74 ans et symbole d'une classe politique qualifiée de vieillissante. La génération Z ou Gen Z, ce sont ces jeunes nés entre la fin des années 90 et le début des années 2010. Et au Népal, ils dénoncent le chômage, la corruption et veulent du changement dans les instances dirigeantes. L'un des candidats plébiscités par cette Gen Z, c'est Balindra Shah, dont BBC World News dresse le portrait en titrant « Une star du rap pourrait bien battre un ancien Premier ministre ».
Et pourquoi Balindra Shah plaît-il autant à la génération Z ?
À 35 ans, il a été maire de Katmandou pendant 3 ans, élu en 2022 à la surprise générale. Et en janvier, il a démissionné de son poste pour se présenter aux législatives. Ingénieur civil de formation, il s'est fait connaître grâce à ses morceaux de rap dénonçant la corruption et les inégalités qui ont cumulé des millions de vues sur Internet. Ces meetings ressemblent à de véritables concerts, comme le montre ce reportage de la BBC. This ex-rapper could be the next leader of Nepal. Cet ex-rappeur pourrait être premier dans les urnes, dit la journaliste dans le reportage qui montre des meetings aux couleurs bleu ciel du candidat. Balindra Shah se présente dans le district de Japa, où il affronte le premier ministre sortant, KP Sharma Oli, élu pour la première fois dans ce district en 1991. Balindra Shah s'est aussi mobilisé pour que les Népalais vivant à l'étranger puissent voter, mais sans résultat. Alors The Nepali Times s'interroge, peut-on parler d'élections partielles lorsqu'un quart des électeurs ne peuvent pas voter. Selon le quotidien népalais anglophone, environ 5 millions d'électeurs vivent hors du Népal, souvent des jeunes contraints de s'expatrier faute de travail dans leur pays. Ne pas avoir mis en place de vote en ligne à distance pour ce scrutin est une occasion manquée, selon l'ancien président de la commission électorale, Bojraj Pokharel, cité par le Nepali Times. Un problème aussi pour les nombreux Népalais ne vivant pas dans leur district d'origine et ne pouvant pas faire le déplacement faute de moyens, déplore le journal népalais Kantipur. Même si le quotidien se réjouit du nombre de nouveaux inscrits sur ses listes électorales, 900 000 dans ce pays himalayen.
Dans la presse internationale également, Mathilde Romagnan, ce joyau au patrimoine iranien qui a été endommagé par les bombardements américano-israéliens.
Le palais du Golestan, surnommé le Versailles du monde perse. Le gouvernement iranien a publié une vidéo montrant l'étendue des dégâts après les bombardements des États-Unis et d'Israël dimanche soir.
One of the most affected sites is the Golestan Palace, a UNESCO World Heritage Site located in Tehran.
L'un des sites les plus touchés est le palais du Golestan, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, situé à Téhéran. On y voit dans cette vidéo des vitres soufflées, des morceaux de verre et de plafond tombés au sol. Et on suit la visite du ministre du patrimoine culturel iranien, Reza Salehi Amiri, dans les débris. Des portes, des fenêtres et des miroirs ont été endommagés, selon l'agence de presse iranienne ISNA. Le ministre Reza Salehi Amiri parle d'une attaque envers l'identité nationale et culturelle de l'Iran, selon Iran International, un site traitant de l'actualité iranienne, mais basé à Londres. La presse française s'est émue de ces dégâts causés à ce palais, mais aussi la presse britannique et américaine. CNN précise que les pièces les plus importantes du musée ont pu être protégées dans une chambre forte. Le quotidien chinois anglophone Global Times rapporte aussi les commentaires sur les réseaux sociaux de nombreux Chinois qui ont visité ce palais, attristés par les dégâts. Les flammes de la guerre ne devraient jamais toucher le grand patrimoine historique et culturel, s'insurge un internaute. Le palais du Golestan a été construit au XVIe siècle, résidence de la dynastie Qadjar. Il est un manifeste artistique et décoratif avec de nombreux salons d'apparat et des jardins fleuris. Sa salle des miroirs est directement inspirée de la galerie des glaces de Versailles. L'UNESCO a exprimé sa préoccupation quant à la protection des sites d'un patrimoine culturel face à l'escalade de la violence au Moyen-Orient. À chaque conflit armé, son lot de patrimoine détruit. Selon l'UNESCO, en Ukraine, plus de 250 monuments ont été endommagés après un an de guerre seulement, presque autant dans la bande de Gaza. À travers l'histoire, les exemples sont malheureusement nombreux et on le sait, la guerre ne fait pas dans le détail. Et quand sauver chaque vie humaine compte, préserver le patrimoine passe au second plan.
Merci beaucoup Mathilde Romagnan.